Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 578 d'Invino BFM. Notre émission est en public et délocalisée chez Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec un menu toujours à 100% en modération et consommation responsable. Champagne Beaumont des Crayères, les vendanges tardives en Alsace, la célèbre maison Bichot en Bourgogne, le marché allemand côté vin, les enjeux du Calvados, la lecture, la bonne lecture en tout cas d'une étiquette de champagne. Et comme chaque week-end, toute l'actualité mondiale des vins et spiritueux, en compagnie d'Antoine Cohen-Potin, Vladimir Kaufmann, David Cobold et Philippe Forbach. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Un plateau bonjour. Très féminin aujourd'hui. Bon alors Vladimir, dans l'agenda du vin, on commence par Chambéry. Qu'est-ce qui se passe là-bas?
Alors cette semaine, les 16 et 17 janvier 2016, la ville de Chambéry organise une rencontre entre les producteurs et le grand public afin de mieux connaître les vins et apprécier les vins de montagne. Le tarif est de 5 euros avec un kit de dégustation. Vous pouvez avoir plus d'informations en appelant le 04 79 60 21 01.
Wow, 5 euros, ça va Philippe Forbach, on peut y aller à Chambéry. Hein.
Oui, même en début d'année, ouais, c'est quelque chose après le rayon.
Qu'est-ce qui se passe-t-il à Chitry? Chitry.
C'est où Chitry?
Alors Chitry, Vladimir, il va souvent en vacances à Chitry, Vladimir. Ouais.
En Bourgogne.
Qu'est-ce qui se passe là?
Même dans le nord de la Bourgogne.
Alors en Bourgogne, le dimanche 24 janvier, à Chitry donc, vous pouvez partir à la découverte des vins généreux et prestigieux que vignerons et négociants se feront un plaisir de vous faire déguster en toute convivialité. Cette fois-ci, l'entrée est gratuite. Et pour avoir plus d'informations, vous pouvez appeler le 03 86 41 41 28.
On quitte la Bourgogne pour Lille, le nord.
Alors, à la fin du mois, le mercredi 27 janvier, le prochain dîner du Wine and Business Club de Lille se déroulera au Salon de l'Ermitage Gantois, au menu économie, gastronomie et grand cru. Pour toute information, vous pouvez aller sur le site web du wineandbusinessclub.com.
Et ensuite, on termine par Paris.
Alors, du 5 au 8 février 2016, venez découvrir le Salon Mer et Vigne au Parc Floral de Paris, où 130 exposants vous feront découvrir et déguster leurs produits. Donc, merevine.fr avec des traits d'union.
Ça signifie qu'on boit sous l'eau.
Oui, c'est ça, David Cobol.
Oui, c'est ça.
Bonne année, David.
Est-ce qu'on peut venir avec sa belle-mère aussi parce que...
Vous pouvez.
Alors, merci, Vladimir. Philippe Forbach qui fait le malin, là, le meilleur sommelier du monde. Un commentaire sur le millésime 1967. Vous l'aimez ou pas, Philippe, 67?
67, c'est un joli millésime, surtout pour les liquoreux, et presque, j'allais dire, presque que pour les liquoreux.
Ah bon?
Oui, c'est un millésime moyen un peu partout. On a fait, par contre, des liquoreux exceptionnels, notamment les Grands Sauternes. Ikem 67 est une des légendes de ce millésime. Ailleurs, ça donnait des vins gentils qui ont été intéressants à boire pendant une vingtaine d'années, et qui sont, pour la plupart d'entre eux, maintenant un petit peu loin.
Bon, donc on oublie, quoi. Ah, même pas à Porto, des trucs comme ça, là?
Un Armagnac? On peut trouver, en distillant, on doit pouvoir effectivement trouver un Armagnac, voire en cognac, et effectivement.
1976, c'est l'année naissance de notre premier invité, Vincent Salimon, le patron, le directeur de Bini France. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors vous êtes diplômé de Subdeco Tours et votre premier job, c'était en coopération, et oui, ça existait en Espagne, et vous vendiez de la pub, racontez-nous.
C'était bien, c'était très très bien. J'étais à Madrid, et c'est un rêve pour un étudiant de se retrouver à Madrid, à vendre l'espace publicitaire de la partie avant des supermarchés, de supermarchés et d'hypermarchés.
Vous étiez fluent en espagnol à l'époque ou...
Alors j'étais pas fluent, mais je suis devenu fluent au bout d'un an et demi parce que j'avais pas le choix. Si je voulais générer un petit peu de chiffre d'affaires, il fallait performer.
Alors vous avez intégré le groupe BMW en 1995, vous avez vécu plein de choses, notamment vous avez passé 4 années en Norvège, racontez-nous.
Alors ça a été fantastique, j'ai passé 4 ans en Norvège de 2010 à 2014 et c'est un pays certes un peu froid avec des nuits un peu longues et des journées un peu courtes.
Est-ce qu'elles sont jolies les Norvégiennes? C'est la question que se pose en
Les Norvégiennes sont sympathiques, c'est un bon test de couple. Si vous voulez tester effectivement la fiabilité de votre ou la solidité de votre couple, partez 4 ans en Norvège.
Bon, bon très bien.
Vous savez plutôt les femmes suédoises parce que je suis marié à une suédoise.
Antoine Cohen-Potin,
la Norvège qui a sous la domination suédoise. Donc,
voilà. Exactement, et danoise aussi, et danoise.
Premier test en Norvège et après on enchaîne sur la Suède. Alors aujourd'hui vous êtes le patron de Mini en France, un mot sur l'histoire de cette marque. La marque, elle est mythique. Elle a été créée quand, Vincent?
Alors, la marque a été créée en 1959 et tout le monde connaît la Mini classique. Mais ce qui est important, et c'est le succès en fait du BMW Group qui a relancé la marque en 2001. Une date tristement célèbre, le 11 septembre 2001, mais c'est comme ça. Donc la nouvelle Mini est ressortie et c'est un succès, c'est réellement un succès puisque sur l'année 2015 par exemple, le monde a livré plus de 300 000 Mini et en France on a fait un record historique avec 22 500 Mini l'année dernière, 23% de plus qu'en 2014. Donc c'est vraiment un succès qui se confirme et avec une gamme très large et un certain nombre de modèles dans la gamme.
Qui vont arriver également. Alors on dit parfois que Mini c'est cher, alors oui peut-être, mais la revente aussi. Donc ça veut dire qu'on perd pas grand chose.
Exactement, en fait. Quand vous achetez une voiture, si j'ai un conseil à vous donner, quand
qui
vous achetez
roule
une
midi,
voiture.
Là, Vladimir, vous roulez un midi, vous? Vous avez déjà eu ou pas?
Non, je roule allemand, mais pas en mini.
Ah, d'accord. Et vous, Antoine, vous roulez en quoi, là?
Non,
parce
moi,
que.
Je roule dans une grosse
voiture. Vous allez chasser, là.
Peugeot, parce que c'est un lion. Et...
Bon, Philippe Orbach, vous avez un peu.
Il y a 3 mini dans mon entourage, comme on dit.
C'est très bien.
C'est presque maximum.
Pour votre fidélité.
Mon frère a une mini, ma fille a une mini et mon fils a aussi une mini, en fait la copie de mon fils, donc ils roulent tous en mini.
Et vous, David Cobol, vous en avez eu deux, dont une en Angleterre.
J'en ai eu la version originale en camionnette et en berline aussi.
Philippe. Mais la mini est de moins en moins mini finalement, parce que si on prend la première originale, on peut rentrer dans la mini d'aujourd'hui.
La mini est toujours mini.
Elle a pris un sacré embonpoint.
Non, la mini est toujours mini. Elle a surtout les qualités, l'ADN, les gènes de la mini. Simplement, elle répond à la demande moderne, en fait, de la nouvelle clientèle ou de la clientèle actuelle.
Elle doit être quand même plus confortable.
Elle est très confortable.
Elle fait le maximum.
Ça, c'est clair.
Non, et c'est vrai que mini. Est devenu plus grand aujourd'hui, puisque le 29 octobre de l'an dernier, en 2015, nous avons lancé le nouveau Clubman, qui mesure 4,25 m et qui se positionne sur un nouveau segment. Le segment, j'ai pas l'habitude de parler de la concurrence, mais aujourd'hui on se positionne en face de la Golf, en face de la Classe A. Donc on a vraiment des arguments.
Et on peut imaginer, Vincent, qu'elle continue à s'allonger la mini ou pas?
Alors,
ou va-t-elle s'arrêter, quoi?
Pour l'instant, on a atteint un niveau très intéressant et surtout ça peut répondre à la demande de clients qui voulaient à tout prix rouler en mini, mais qui les trouvaient un tout petit peu trop petites.
Alors la qualité.
Et pour répondre à votre question, Alain, le prix d'une mini, moi, quand vous achetez une voiture, ce que je vous conseille, c'est non seulement regarder le prix d'achat du véhicule, le prix catalogue, mais la réalité dans l'automobile, c'est le prix de détention, le coût de détention. Et en fait, la force de Mini, c'est d'avoir les valeurs résiduelles, donc les valeurs de revente les plus élevées du marché. Ce qui veut dire que même si nous sommes une marque premium, nous l'assumons, donc nous avons le tarif d'un véhicule premium parce que nous avons les qualités, le style, la technologie d'un véhicule et le confort, vous l'avez dit tout à l'heure, d'un véhicule premium. Le fait de revendre la voiture fait que le coût de détention est tout à fait compétitif par rapport à des marques généralistes, même la marque que vous avez citée tout à l'heure, la marque Lyon, c'est ça.
Exactement. Dans l'actualité, en mars, dans quelques semaines, ça y est, le nouveau cabriolet.
Exactement. Alors, c'est un icône, c'est une classique. Le cabriolet mini va sortir le 3 mars exactement en France.
Je vois Philippe Orbach qui note la date là pour se dépêcher de
l'acheter. C'est grand, c'est long, c'est plus long que
le autres. Alors, c'est un petit peu plus grand que le précédent, mais c'est de la taille de la 3 portes que nous avons lancée en mars 2014. Et ça va être un succès, on le sait, puisque nous avons déjà vendu un certain nombre de voitures. Le portefeuille se remplit. Et de nombreux clients et prospects attendent avec impatience le nouveau cabriolet.
Le prix, ça va être autour de combien, Vincent?
Alors c'est à partir de 24 000 euros.
24 000 euros, voilà. Quoi. Alors je sais que vous écoutez chaque week-end une vidéo BFM sur BFM Business 96.4 à Paris, le samedi à 13h et le dimanche à 16h. Vous êtes un fan de vin, vous adorez le vin, notamment un vin rosé du côté de Fitou dans le Languedoc. Racontez-nous.
Alors c'est dans le Fitou, mais c'est un peu plus dans les Corbières et c'est à Cascastel des Corbières. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est aller au Grand Guilhem, c'est le domaine du Grand Guilhem. Ce sont deux Parisiens qui ont pété les plombs dans les années 2000 et qui ont décidé de quitter la région parisienne et de s'installer dans les Corbières. Et qui font aujourd'hui, on l'appelle le Valais du Paradis, c'est un rosé bio qui est exceptionnel.
Ils sont sympas tous les deux?
Ils sont très sympas, ils ont des chambres d'hôtes, ils ont des gîtes, donc on peut aller s'installer en plus pour une semaine ou quelques jours.
Alors vous avez, Vincent, vécu à Mâcon, vous aimez, je suppose, les vins de Bourgogne, plutôt rouges?
Plutôt rouges.
Plutôt rouges, parce qu'en blanc, ils ne sont pas bons en Bourgogne. Hein,
ils sont pourtant, plutôt rouges, un Juliena.
Pourtant, dans le Mâconnais, il y a beaucoup de blancs.
Oui, tout à fait.
Mais plutôt rouges.
Les Saint-Véran, les Vinzelles, etc.
Mm-hmm. Et vous, à titre personnel, vous êtes plutôt quoi? Cognac, Calvados, tisane ou Calva?
Alors, je suis plutôt Calvados.
Calvados?
Oui.
Pourquoi, il y a des raisons, Calvados. Quoi?
Oui, c'est parce que en fait, j'ai commencé à découvrir l'alcool avec du Calvados.
D'accord. Alors, vous êtes également fan de champagne.
Ça rappelle la scène dans Tonton Flinga quand il dit ça, c'est un goût de pomme.
Il y en a.
Il y a toujours dans le Calvados.
Vous aimez le champagne? Et si oui, quelle marque favorite?
Alors, j'aime bien le champagne et je suis plutôt traditionnel. Donc, j'aime bien le Veuf Clicquot, un brut tout simple, classique, mais exceptionnel.
Très bien. La maison LVMH, quoi. Et enfin, on parle un peu de Barcelone parce que vous aimez les Catalans, vous aimez les Catalanes et les vins catalans.
Alors, j'aime bien les vins catalans, j'aime surtout la région catalane, l'autre côté de la frontière est vraiment très sympathique. Et ils ont des vins très sympathiques qui se marient avec de la nourriture aussi assez exceptionnelle.
Vous y allez souvent? Vous allez en vacances? Vous êtes dans le coin peut-être?
Non, je vais plutôt en vacances du côté français de la Catalogne, mais ça me permet de traverser la frontière de temps en temps.
Et comme spécialité culinaire catalane, qu'est-ce que vous aimez? Plutôt les poissons, la viande, les deux?
Non, je vais rester sur de la charcuterie traditionnelle et plutôt de la saucisse catalane.
Les vins catalans, Philippe Orbach, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une belle région aussi. Hein.
C'est une très belle belle région. L'appellation la plus connue, c'est Penedès, finalement. Mais des vins de la côte, côté Priorat, par exemple, également aujourd'hui, un beau succès. On produit pas mal de cava, même si on produit du cava dans d'autres régions d'Espagne.
C'est-à-dire
effervescent. C'est leur référence en effervescent chez eux. On a parlé du champagne tout à l'heure, c'est un peu la même démarche. Et puis, moi j'adore, du côté de la Catalogne, une liqueur qui est la Tarragone, qui n'est malheureusement plus produite aujourd'hui par les moines des Chartreux, mais qui pendant longtemps a été produite à Tarragone. Et c'est une des légendes des grandes liqueurs de France. Produite effectivement pour partie et pendant une période en Espagne de grande, grande qualité.
Les Catalans communiquent beaucoup. Vous aussi avec Mini, vous communiquez beaucoup. Vous avez un budget massif, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, vous créez des films avec deux Francisou qui sont géniaux, c'est ça?
On a exactement. On a un budget limité, qui est toujours limité. Mais Mini est présent et Mini a une forte notoriété. On essaye de vraiment renforcer la notoriété de la marque. Et c'est vrai qu'au mois de mars 2015, on a lancé un nouveau moteur, un nouveau moteur dans la version 3 portes, qui est la version John Cooper Works, qui fait 230 chevaux, 231 chevaux exactement. Et c'est vrai que comme on a un budget limité, on a essayé de se faire connaître différemment. Et donc, on a décidé de faire une campagne embarquée. C'était la première campagne embarquée au monde. Donc, on a pris des journalistes, on a pris des blogueurs, on a pris des créatifs. On a fait tourner la voiture sur un circuit ou un endroit privé. La voiture roulait vite et la campagne, les articles ont été écrits dans la voiture. Donc ça a donné un résultat très sympa et un buzz très intéressant.
On peut le voir quelque part, Vincent, ça aussi?
Alors on peut le voir sur YouTube. Vous tapez campagne embarquée Mini John Cooper Works sur YouTube, vous allez le retrouver.
David Cobold.
Et vous trichez pas sur les émissions comme une autre marque allemande?
Alors je ne parlerai pas des autres marques, mais je confirme que nos émissions sont fiables.
Bon, voilà une question. Ça, c'est une question d'anglais. Il est très anglais, David. T'entends, hop, il redevient anglais. Merci Vincent Salimon et bon vent pour Mini en France avec le Cabriolet qui va sortir quand? Mi-mars, c'est ça?
Le 3 mars, exactement, début mars.
Invino BFM marque une première pause et ensuite retour ici chez Nicolas à Paris pour parler du champagne Beaumont des Crayères.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour chez Nicolas Paris pour cette émission en public et délocalisée. Nous accueillons un nouvel invité, Olivier Piazza, qui est à la fois le directeur exécutif et œnologue du champagne Beaumont des Crayères. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors racontez-nous, il paraît qu'au tout début vous avez vendangé dans le Minervois.
Ah bah qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé en fait amoureux du vin lorsque j'avais 17 ans lors d'un repas de famille. C'était pas dans le Minervois, c'était dans la vallée de la Loire et en dégustant un Saint-Nicolas de Bourgueil qui avait des arômes magnifiques.
Et là vous avez dit j'y vais.
Bah, je me suis dit, à cette époque-là, je consommais peu de vin. Je me suis dit, mais on en fait tout un pataquès du vin. Ça semble quand même bien intéressant et c'est bon. Donc, il faut que je m'intéresse un petit peu plus à ce monde merveilleux.
Et votre premier contact avec les bulles, c'est en 1989 chez Lançon.
Alors là, effectivement, je revenais d'une expérience assez à l'étranger, assez loin, dans un univers assez exotique. Et à l'époque, Lançon appartenait au groupe BASN, maintenant Danone. Et ils ont recherché quelqu'un qui avait la résistance pour s'immerger dans cet univers très exotique qui sont les caves champenoises.
Ah oui, les fameuses crayères, comme on dit. Quoi. Et donc là, après, vous avez travaillé aussi pour des vins luxembourgeois et des créments. Vous avez trahi les champenois avec les créments?
Non, j'ai pas trahi. En fait, le fil conducteur de ma carrière est quand même avant tout un fil conducteur hédonique. J'ai d'abord cherché à découvrir ce que c'était que la notion de terroir, par exemple.
Vaste sujet, je vois David Cobold qui sourit. Alors, allons-y, Olivier.
Je vais pas vous faire un cours sur les terroirs, mais j'ai découvert physiquement le terroir lors de mes premières vinifications importantes qui m'ont réellement marqué. C'était à Château-Morgan en 1985. Et là, c'était magnifique puisqu'il y avait différentes parcelles plantées pratiquement la même année, mais sur des crus différents qui étaient vinifiés séparément. Et là, j'ai
Il y a une vraie différence, quoi.
Il y a une vraie différence. Et quand je discutais avec le maître Lechet, il me disait, oui, Puech-Champerre, c'est toujours le même style. C'est toujours ça. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Et après, je n'ai eu de cesse durant toute ma carrière. Je suis passé par la vallée du Rhône, je suis passé par des contrées plus ou moins lointaines, d'essayer de toujours exprimer
L'expression du terroir. Alors, Olivier Piazza, vous avez rejoint en 2007 cette maison, on va dire, hein, Beaumont des Crayères. Un petit mot peut-être sur la création en 1955. Donc là, 61 ans maintenant en 2016. Bravo.
Effectivement, nous venons de fêter nos 60 ans chez Beaumont des Crayères. En 1955, il y avait un certain nombre de vignerons extrêmement fiers de la qualité de leur terroir sur cette colline toute proche d'Épernay. Et qui avait évidemment à cette époque, le champagne n'avait pas la prospérité d'aujourd'hui. Et ils se sont dit, on est capable de faire des très grands vins, il faut qu'on se réunisse pour faire un grand champagne, pour montrer comment nos terroirs sont qualitatifs. C'est quelque chose de fondamental dans la culture de la maison Beaumont des Crayères. C'est justement cette croyance et cette fierté dans la nature du terroir. Et pour preuve, c'est qu'ils ont choisi quelque part le nom d'une des meilleures parcelles du vignoble du petit village à 2 km d'Épernay où on est. Et cette parcelle s'appelle Beaumont des Crayères.
Tiens donc.
Et c'était un nom très bien choisi puisque il est tout à fait révélateur de ce qu'est un bon terroir en champagne.
Aujourd'hui, il y a combien d'hectares au total, dites-nous ?
Nous avons 85 hectares d'approvisionnement.
Ce qui est grand, vous êtes quasiment autosuffisant, c'est très rare en Champagne.
Nous sommes effectivement parfaitement autosuffisants, ce qui est une grande force au niveau qualitatif, effectivement. Et ça nous permet de travailler. Quelque part, on est en train d'essayer d'exprimer, chez Beaumont des Crayères, on essaie d'exprimer une authenticité, un terroir très fort. On a.
Et votre pâte aussi, vous êtes œnologue, donc vous donnez quand même le là, si je puis dire.
On travaille en équipe là-dessus. Hein. C'est pas un travail solitaire. On doit respecter le style d'une maison et surtout permettre de trouver ce en quoi le terroir a de meilleur pour chercher à l'exprimer le plus possible pour faire les vins les plus expressifs.
Le style, parlons-en, Olivier. C'est quoi le style ?
Notre style est plutôt sur l'expression. On cherche l'expression et le fruité. On cherche à exprimer un fruité intéressant car notre vignoble est parmi les plus réputés, entre autres, d'un cépage, le cépage le plus champenois des cépages, qui est le cépage meunier.
Alors justement, parfois on dit que c'est le parent pauvre, que la noblesse réside dans le pinot noir, le chardonnay. En revanche, le pinot noir, qu'est-ce que vous dites ? Vous inscrivez en faux ? Vous dites oui, vous avez raison.
Ah, écoutez, heureusement que c'est pas le parent pauvre, puisque c'est quand même 33% de la Champagne. Si 33% étaient parent pauvre, ça serait embêtant. Le meunier, qu'est-ce qui se passe en Champagne ? Nous étions, on va dire, plutôt, sur la limite nord, à cause du réchauffement climatique, c'est la COP21.
Ah ben non, les Seychelles et les Bahamas sont proches. Hein.
Mais bon, on était sur la limite nord de la croissance de la vigne. Et donc, il y a un problème, et on a toujours ce problème, malgré le réchauffement climatique, le gros problème de la viticulture, c'est la gelée de printemps.
Oui.
Donc là, même si ça se réchauffe, au contraire, la vigne a tendance à débourrer tôt, on a toujours des problèmes.
Et le meunier résiste bien ?
Effectivement, les champenois ont sélectionné, à partir du pinot noir, une variante qui résistait un petit peu mieux aux gelées de printemps. Et donc, qui s'est développée fortement au niveau de la vallée de la Marne, parce que la présence de la rivière Marne augmentait un petit peu l'humidité, et donc rendait les vignobles dans ce secteur un petit peu plus
humide. Côté millésime, Olivier, aujourd'hui, vous avez quoi ? Vous avez dans la gamme, on va dire, des 2004, des 2006 et 2008 ?
Aujourd'hui, nous présentons effectivement au niveau de notre bouteille spéciale du 2004, au niveau de nos millésimes du 2006. Nous avons aussi un pur meunier, puisque notre terroir est très réputé pour la qualité de ses meuniers.
À 100%, donc ce qu'on appelle un monocépage.
Un monocépage en 2008.
Et aujourd'hui, donc, la gamme des prix, ça va de combien pour tout un chacun ?
La gamme des prix, ça va de 25 euros à 55 euros.
Et 55 euros, ça c'est bien, pour la cuvée haut de gamme, on va dire, qui s'appelle comment ?
Qui s'appelle Rare Essence.
Et 75% des vins sont exportés, c'est aussi une originalité, car la Champagne consomme quasiment la moitié des vins de Champagne en France.
Tout à fait, oui. Et nous sommes effectivement beaucoup développés sur tout un tas de marchés à l'exportation, ce qui est une grande richesse quelque part de notre métier.
Combien de pays au total porte le drapeau, si je puis dire, du champagne Beaumont des Crayères ?
Alors, on ne les compte pas, on n'est pas fétichiste du drapeau, mais nous sommes fiers d'être présents, évidemment, dans pratiquement tous les pays européens, mais aussi très présents en Asie. Dans tous les grands pays d'Asie et
Cocorico,
en Amérique du Nord.
Pour terminer, un site internet, une adresse peut-être pour prendre enseignement sur cette maison, ce champagne Beaumont des Crayères.
Oui, il suffit de taper sur n'importe quel moteur de recherche champagne Beaumont des Crayères ou champagne-Beaumont et vous trouverez notre site qui vous permettra de développer votre culture de cette magnifique petite pépite de la Champagne.
Merci Olivier Piazza, le directeur exécutif de cette belle maison, le champagne Beaumont des Crayères. Et du BFM retrouve le grand sourire franc et massif de Philippe Forbach, notre meilleur sommelier du monde à nous, pour nous parler de l'Alsace. On quitte la Champagne pour l'Alsace, on reste quand même dans les trucs assez continentaux quand même.
Et oui, je me suis dit que dans ce début d'année, j'allais vous parler des vendanges tardives. Alors j'ai choisi l'Alsace, on aurait pu choisir une autre région, parce que finalement, le vendange tardif, c'est pas spécifique à l'Alsace. C'est un type de vin qui correspond à une surmaturité du grain, de raisin, qui est vendangé volontairement ou non, d'ailleurs, il y a une définition légale qui est précise, après sa maturité normale. Donc on a une concentration en sucre par déshydratation, on peut aller plus loin jusqu'au passerillage, c'est-à-dire que le grain est quasiment rabougri, et passerillage sur pied, on fait presque un vin de paille, mais sur le pied de vigne. Et si on va plus loin, on peut aller avec des raisins qui se peuvent être atteints par la pourriture noble, le fameux Botrytis cyrenea, et obtenir ce qu'on appelle des sélections de grains nobles. Et là, il y a vraiment une sélection, c'est-à-dire qu'on fait grain à grain les vendanges. Et de temps en temps, quand le climat, ce ne sera pas le cas cette année vraisemblablement, il ne fait pas assez froid, mais de temps en temps, quand il fait très froid, on peut faire aussi ce qu'on appelle du vin de glace, c'est-à-dire un vin qui est obtenu par rapport à des raisins qui sont congelés sur pied. Il faut faire une déclaration préalable en disant, ben voilà, on a la météo, cette nuit, ça va descendre à moins de 12 ou 13 degrés. Finalement, on a
un contrôle.
Et c'est bon,
ça, Philippe, un vin de glace.
Alors, vin de glace, c'est bon, il faut aimer.
Ah, dites que c'est pas bon si c'est pas bon.
Moi, j'aime bien. Il faut aimer le vin concentré, avec une sucrosité relativement importante, une acceptation de l'équilibre grâce à une acidité qui également est assez importante, et un niveau d'alcool relativement faible. Parce que dans les vins de glace, on a des degrés d'alcool qui sont rarement supérieurs à 8-9 degrés.
Antoine Calpotin ?
Oui, alors question toute simple. Est-ce qu'un vin de glace, on peut mettre de la glace avec ? Il faut le boire très frais
Alors, c'est une question légitime, mais ça se boit...
Monsieur a une épouse suédoise.
Il ne faut pas le servir givré. Parce qu'on pourrait tenter de se dire, on va le mettre au congélateur quelques instants, on va le rendre en paillettes, ça se faisait à une certaine époque, et le servir comme ça. Le but, c'est pas ça. On a déjà eu ce phénomène-là sur le raisin, sur le jus de raisin au moment de la vendange. Donc on n'est pas obligé ensuite de le reconcentrer, ça serait un peu too much. Et puis en plus, le froid a un côté anesthésiant, et c'est un peu dommage par rapport à la qualité, l'originalité de ce vin. Pour revenir à la notion de vendange tardive qui nous anime aujourd'hui, on trouve des vendanges tardives en Allemagne, les fameux Spätlese allemands sont des vendanges tardives, on trouve des appellations similaires en Autriche, au Luxembourg. On en trouve en France, dans le sud-ouest. Gaillac, par exemple, fait des vendanges tardives. Dans la Loire également, aujourd'hui, on peut déclarer aussi des vendanges tardives. Mais le vignoble, pour nous, le plus connu, c'est l'Alsace, c'est celui de référence. Pour faire une vendange tardive d'Alsace et le déclarer en tant que tel, il faut un vin élaboré à partir normalement que des raisins nobles, c'est-à-dire Gewürztraminer, Pinot Gris, Riesling et Muscat. Il faut que la vendange soit faite à la main. Il n'y a pas de chaptalisation autorisée, c'est-à-dire qu'on ne doit pas rajouter absolument de sucre pendant quelconque moment de la vinification. C'est uniquement le sucre naturel qui est, lui, en sucre concentré. Et le moût doit avoir, au moment de la vendange, l'équivalent de 243 grammes de sucre par litre. Donc c'est vraiment très précis, hein, c'est le minimum, de manière à pouvoir ensuite, ces 243 grammes pour être plus précis, pour les gens qui nous écoutent avec attention, pour le Gewürz c'est le Pinot Gris, et c'est 220 grammes pour le Riesling et le Muscat.
Notez bien. Hein.
Voilà. Et donc du coup, on a un vin qui a souvent, alors, et en plus il y a 18 mois d'obligation d'élevage avant la commercialisation, pas nécessairement sous bois, mais en cuve, de manière
à pouvoir... Est-ce que ça coûte très cher, Philippe? Parce que là c'est quand même
alors,
le boulot.
Hein. Automatiquement, on réduit avec le temps, avec l'évaporation, on réduit les volumes, on est obligé de monter plus loin en maturité, on va ensuite en faire un vin qui est relativement concentré, c'est automatiquement plus cher qu'un vin sec en termes de coût de revient. Finalement, c'est pas si cher que ça parce qu'ils arrivent pas nécessairement toujours à valoriser ce vin qui a à la fois des vertus et en même temps ses limites de consommation. Mmh. C'est pas un vin qu'on va vivre tout le temps
pour
un plat, etc.
Pour une bonne bouteille d'un...
Disons qu'en pourcentage par rapport à un vin sec, il va falloir compter peut-être 30% de plus. C'est pas énorme par rapport à la qualité et à la concentration de ce vin.
Et d'accord avec la gastronomie, qu'est-ce qu'on peut imaginer?
Alors, souvent on l'évoque à l'apéritif pour les gens qui aiment un peu les vins moelleux parce que ça garde quand même une certaine fraîcheur, donc c'est intéressant. Avec des fromages, c'est parfait. Un Gewürztraminer avec un Münster, par exemple, c'est un accord qui se passe très bien. Ça va très bien avec des volailles rôties. Ça va très bien avec, on peut l'imaginer aussi avec des desserts. Il y a des arômes de coin, d'abricot souvent en fonction du cépage. Hein. On est plus litchi sur le Gewürz, on est plus coin sur le Muscat ou voir le Pinot Gris. Mais globalement, on a un côté confiserie qui permet effectivement d'alimenter notamment les desserts à base de fruits.
Moi, je le conseille sur des mets assez légèrement épicé, genre la cuisine séchuanaise par exemple.
Séchuanaise, d'accord. Mais séchuanais du sud ou du nord, c'est peu importe quoi. Oui.
La cuisine séchuanaise est globalement assez épicée et ça fonctionne
quoi.
Très
quelques
bien.
Quelques vignerons, Philippe, des bonnes adresses.
Et sur le foie gras, c'est aussi bien sûr un mariage qui va bien. Alors pour le Pinot Gris, par exemple, Frédéric Mochel. Pour le Gewürztraminer, j'aime beaucoup la production de Rolly Gassmann ou de Seppi Landmann. Pour le Muscat, j'ai un faible pour le Clos Saint-Nandelin de la famille Muret.
Et puis aussi un très bon Pinot Noir d'ailleurs.
Exactement. Pour le Riesling, Trinbach, et je terminerai avec Jos Meyer parce qu'un petit hommage à M. Meyer qui nous a quittés il y a quelques jours et qui était un très grand vigneron alsacien.
Merci beaucoup Philippe Orbrac, InVino BFM, marque une pause pour les infos et ensuite retour chez Nicolas à Paris pour accueillir la star de Bourgogne, hein, Albéric Bichot himself.
InVino BFM, Alain Marty sur BFM Business.
Retour chez Nicolas Paris, Place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec un nouvel invité, Albéric Bichot, le patron et directeur général de la maison de Bourgogne éponyme. Bonjour Albéric.
Bonjour.
Alors, vous êtes né en 1964 aux Hospices de Beaune. C'est une blague ou pas? Il y a une vraie maternité ou il y a que des stars et des people là-bas?
En fait, je suis né sur le parking des bus des Hospices de Beaune. Si vous y allez maintenant, voilà, il y a une petite croix. Et ouais. Tous les Beaunois des années 60-70, on essaie là-bas.
Sur le parking, quoi.
C'est ça, il y a une espèce de maternité en préfabriqué.
Vous êtes un SBF, quoi, en Bourgogne, quoi, c'est ça?
C'est à peu près ça.
Ouais. Et alors, vous avez quand même voyagé partout, vous avez bourlingué aux quatre coins du monde, là, au Canada. Vous êtes un super aventurier.
En fait, tout avait commencé, pour ceux qui sont un peu de ma génération.
64, ça là, vous n'êtes pas encore trop vieux. Hein.
Non, pas encore.
Vous êtes tous de sa génération.
Oui. Bon, alors, vous tous, vous souvenez des carnets de l'aventure.
Bien sûr, oui.
En 82, il y avait une belle émission. Et puis avec trois copains, on avait vu un truc incroyable qu'un gars avait fait, qui s'appelait Alain Rastoin, dans le Grand Nord du Québec. Voilà, et on a dit, on va faire un petit bout de ce voyage-là. Et à l'époque, parmi les trois copains, il y avait Nicolas Vanier, qui lui en a fait plus qu'une passion, mais son métier. Et voilà, donc j'ai fait cette première expédition.
Combien de temps vous êtes parti, puis,
on était parti 2 mois, 4 ans plus tard.
Et là, pour manger, il fallait chasser, il fallait pêcher. Vous êtes un grand pêcheur, vous, non?
Un énorme pêcheur devant l'éternel, ça c'est clair.
Et c'était une super aventure. Combien de temps vous êtes parti au total?
Donc cette première expédition, c'était 2 mois. 4 ans plus tard, j'ai remonté une expédition, parce qu'on n'était pas arrivé au bout la première fois, donc là, avec d'autres gars. Et puis, quelques années plus tard, j'ai monté une expédition en Patagonie et en Terre Adélie.
Vous étiez marié à l'époque ou
non,
des potes phoques, quoi? C'était...
Non, j'avais des potes phoques.
Qu'est-ce que vous aviez apporté à boire? Parce que deux mois là-bas, dans le Grand Nord...
On buvait avec de l'eau de la rivière.
That's all.
2 mois à l'eau, ça vous est déjà arrivé avant ou pas?
Non,
jamais.
Non, depuis,
alors,
non plus.
Vous avez rejoint l'entreprise familiale en 1990. Alors, racontez-nous un peu justement l'histoire. Tout débute en 1831, c'est ça?
1831, donc il y a 6 générations en fait. Donc c'était un Bichot, c'était mon arrière-arrière-grand-père.
Et quel était son prénom, son petit prénom, c'était quoi?
Bernard, comme Saint-Bernard.
Et aujourd'hui, vous êtes à la fois producteur et négociant, racontez-nous cela.
C'est ça, nous on est un petit peu atypique, on est avant tout bien sûr viticulteur. Avec plusieurs domaines à Chablis, en Côte de Nuit, en Côte de Beaune.
Vous avez 4 domaines
maintenant. On va dire 6 en fait maintenant.
6,
parce qu'il y a un nouveau domaine, un moulin à vent, qui est une appellation qu'on adore, que ça faisait très longtemps qu'on voulait faire quelque chose. Et on a trouvé un petit domaine de 4 hectares à Rochegray, dans le terroir de Rochegray. Ça s'appelle le domaine de Rochegray.
Ça peut vieillir les vins de moulin à vent ou pas, dites-nous?
Oh, oui. Ah, mais surtout. Et on peut être souvent surpris à l'aveugle. Parfois, on ne sait pas où on est, où on se dit, tiens, on est peut-être un peu plus au nord.
Ça pilote ou ça galopise?
Oui, bien sûr, ça pilote. Et d'ailleurs, si on écoute attentivement les émissions précédentes, David nous a expliqué que le Gamay et le Pinot étaient de la même origine. Et c'est vrai qu'avec le temps, on s'en aperçoit d'autant plus. Et c'est vrai que, notamment les terroirs, alors effectivement, Morgon, Moulavant, peut-être plus que les autres, ont tendance à s'exprimer avec le temps comme des pinots.
Oui, c'est très bon ça. Au total, vous avez combien d'appellations que vous proposez à la vente, Albéric?
Il y a 91 climats différents.
91
climats. Donc c'est peu et beaucoup à la fois quand on pense qu'il y a 1270 climats en Bourgogne. C'est ça qui a été classé d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO l'année dernière.
Vous n'êtes pas tué pour ça. C'était une belle reconnaissance.
On s'est battu pendant 7 ans.
Et ça apporte des choses concrètes ça ou pas? C'est-à-dire qu'il y a plus de touristes qui viennent, il y a plus de Japonais, vous avez pris 20% de plus sur les vins?
Non, du tout. Non, si on parle de tourisme, déjà la Bourgogne est très touristique. L'Hôtel Dieu, les Hospices de Beaune, c'est déjà 420 000 visiteurs par an. Il n'y aura pas un plus 1 ou un plus 30. Non, d'un point de vue pas philosophique, mais enfin, on a gravé dans le marbre que la vraie culture de terroir, c'est celle de la Bourgogne. C'est 2000 ans d'histoire qui sont gravés dans le marbre. Comment l'homme, le terroir... Et le vin.
Antoine Cohen-Boutin.
Oui, tous les sites qui ont été classés à l'UNESCO ont tous connu dans les années qui ont suivi une augmentation des visiteurs. Donc, rendez-vous dans 5 ans, ça devrait vraiment exploser.
Et c'est vrai que là, il y a déjà du monde en Bourgogne. C'est vrai qu'il y a David Cobol.
Mais il y a des questions à gérer par la suite. Et d'ailleurs, dans le colloque que vous avez organisé avant que le classement ait été voté ici à Paris au printemps dernier, j'ai trouvé d'ailleurs remarquable cette colloque, ce qui m'a convaincu de soutenir la chose moralement, parce que mon soutien ne vaut que dalle, mais j'étais sceptique avant, j'étais totalement convaincu par la démarche, très collectif, mais la question qui se pose, c'est la gestion de ça après, c'est-à-dire comment nettoyer le paysage, où il y a quand même beaucoup de choses assez moches dans ce paysage, pas par votre faute, mais par la faute de l'absence de contrôle sur le, l'urbanisation globalement. Et je pense à l'exemple de Cinque Terre en Italie, qui a été classé et qui est un dépotoir aujourd'hui, donc qui n'a pas été bien géré. Je pense qu'il faut, le travail ne fait que commencer dans un sens.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Vous partagez le sentiment de David en disant qu'il y a encore du boulot, quoi. Hein.
Bien sûr, il y a encore du boulot. C'est pas un aboutissement, c'est un point de départ maintenant.
Alors on parle un peu de bio. Vous êtes un militant du bio ou pas alors? Ou alors faut mettre beaucoup de pesticides?
Non, un homme de la nature comme j'ai été et comme je suis. Quand je suis rentré il y a 25 ans au domaine familial, voilà, on a commencé à travailler la lutte raisonnée et puis ensuite on est passé au bio, on est certifié officiellement depuis 3 ans maintenant. Et voilà, c'est le sens de l'histoire.
C'est une philosophie personnelle, c'est vous qui avez mis votre empreinte, si je puis dire, sur ça? Ou alors c'est aussi un côté mode et marketing, parce que c'est à la mode le bio?
Non, alors nous, c'est pas du marketing, parce qu'on ne le met même pas sur, sur la bouteille. Oui. Parce que dans le bio, il y a de tout. Il y a du bon, il y a du très bon. Il n'y a pas forcément... Voilà, on ne va pas se cacher derrière.
Il y a parfois du très mauvais. Il y a du très bon et du très mauvais. Quoi. Voilà.
Comme partout. Et il y a du pas bio, il y a du conventionnel qui est très bon aussi. Mais on sait qu'en Bourgogne, on l'a encore redécouvert. Enfin, on le découvre à chaque millésime. La richesse, elle est sous nos pieds. Mmh. Protégeons ce qu'il y a sous nos pieds. Si on cultive la vigne, si on laboure, c'est parce que la racine doit aller profondément. Sinon, il n'y a plus de terroir. Donc, ne bousillons pas le sous-sol.
Il est formidable. Philippe Aurèle, vous voulez ajouter quelque chose sur le bio, cette démarche bio, cette philosophie?
Bah moi c'est une philosophie que je partage. Elle a ses limites, on le sait, mais ça fait quand même progresser en termes d'état d'esprit, en termes d'investissement dans sa vigne, etc. On retrouve des gens dans la vigne. Alors qu'on avait tendance à dire, bon, le vin, le raisin se fait, ramenez-nous du raisin, on va s'occuper après de faire du vin. Or, le vin commence justement dans la terre. Et pas que dans la cave. Quoi.
C'est évident. On peut avoir les meilleurs œnologues de la terre. Non, pas raisin, de la terre. C'est le raisin, bien sûr, avant tout.
Et pour terminer, côté distribution, on vend également en direct, Albéric, ou alors il faut aller chez les cavistes pour trouver vos vins? Comment ça se
on
passe?
On vend essentiellement, effectivement, chez les cavistes, et puis bien sûr, la restauration. On n'a pas de site internet, on ne vend pas sur internet, on protège en même temps nos distributeurs.
Bien sûr.
Mais vous pouvez toujours nous appeler. On vous répondra, on vous livrera.
Le 2015 en Bourgogne, ça se passe comment? C'est encore le millésime du siècle, comme chaque année?
Je pense qu'il faut demander ça aux journalistes.
C'est vrai? Oui. Bah, est-ce que vous aimez vos vins? Est-ce qu'il y a un potentiel? Dites-nous, là.
Mais c'est fantastique, c'est fantastique. Bon, très sincèrement et honnêtement, il y avait tout cette année. Mmh. On a tous les bons équilibres, on a l'acidité, fraîcheur.
Faut se précipiter pour acheter, quoi. Mmh. Bon, allez, pour terminer, vous êtes marié, vous vous souvenez du vin qui allait servir le jour de votre mariage ou pas?
Un Chambolle Musigny premier cru, les Chabiot.
Et vous vous souvenez de votre femme?
Elle s'appelait... Je crois que c'est Constance.
Merci beaucoup, Albéric Bichaud, du BFM. Quitte la Bourgogne pour découvrir le marché allemand grâce à vous, Vladimir Kaufmann. Je rappelle que vous êtes le patron, le propriétaire aussi de cette RVI, Revue Vinicole Internationale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les grandes tendances en Allemagne?
Alors, le marché mondial et allemand bouge beaucoup ces dernières années. Le marché allemand était depuis longtemps le premier marché mondial d'importation de vin. Il est passé deuxième derrière la Chine en 2014-2015, donc c'est un mouvement qui est très récent. Le premier fournisseur sont les Italiens, le deuxième les Espagnols et la France est troisième fournisseur de vin pour l'Allemagne, en quatrième dans l'Afrique du Sud. Donc on peut dire que le marché est vraiment tiré par une très bonne organisation des grandes surfaces de la GMS. Bon, c'est la rigueur allemande fait ses preuves. On voit qu'il y a plus de 175 000 restaurants, plus de 37 000 hôtels et entre 3 et 4 000 cavistes indépendants en Allemagne. Donc c'est quand même un marché qui est...
Il y a combien en France, hein, Philippe Orbach, de cavistes à peu près, ou David? Peut-être 5 000 peut-être 5 000, non?
Peut-être.
Ouais, si c'est peut-être. Une colle, je crois que c'est la première colle en 578 émissions.
Là, je vais demander à Nicolas de nous dire. L'ordre de grandeur, Nicolas, ils ont 500 boutiques.
500 boutiques, oui.
Donc,
plus de 5000 peut-être.
Il y a peut-être 3500 indépendants et le reste en magasin de chaîne.
Exactement, quoi. Alors, allons-y, Vladimir, qu'est-ce qui se passe chez les Allemands?
Donc, le marché est quand même très bien structuré. Il y a une grosse machine pour la distribution pour les acheteurs qui est ProWine, qui est le salon annuel de vin qui rassemble un peu tous les professionnels du marché, tous les acheteurs.
Selon vous, c'est mieux qu'une expo ou pas?
Alors, les deux sont très bons. Alors, le calendrier pour ProWine est très bon parce que c'est plutôt le premier semestre. Donc, les acheteurs viennent passer les commandes. Le marché, en général, moi, je trouve que à ProWine, en fait, on fait des affaires. Les acheteurs viennent avec des carnets de commandes, les producteurs signent, on rencontre beaucoup de directeurs commerciaux, d'acheteurs. Vinexpo, c'est assez différent, c'est plus tard dans l'année. c'est tous les deux ans. Et on rencontre plus de propriétaires.
Ils sont complémentaires quelque part peut-être.
C'est assez complémentaire. On peut parler de division des marchés, du monde, etc. Moi, je crois surtout qu'on a c'est un marché très professionnel à Provine, et c'est un marché aussi professionnel Vinexpo, mais il y a un after, il y a beaucoup de soirées à Vinexpo, donc on rencontre beaucoup de monde dans les propriétés. Alors qu'à Düsseldorf, à 5h, on
rentre à l'hôtel, il y a moins de vignobles,
on sait plus très bien quoi faire.
Oui. Tu as l'écrit à sa femme quand elle vient avec Pichot, fait tous les jours. Alors, revenons à l'Allemagne, alors. Qu'est-ce qui se passe, là?
Donc, le marché est aussi tiré par Provine, qui a lieu cette année du 13 au 15 mars à Düsseldorf. Donc, en 2014, il a fêté ses 20 ans. On retrouve 4800 exposants de 47 pays. Et plus de 49 000 visiteurs, donc 45% d'étrangers, ça augmente un petit peu. Il y a une nouveauté cette année, donc Provine, là on n'est plus sur l'Allemagne, mais Provine va à Singapour. Singapour est extrêmement dynamique, c'est le moment d'aller à Singapour parce que les taxes qui étaient 80% sur le vin, ces derniers mois, on sont passées à 7 $ singapouriens, ça fait 4 €, donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les vins premier prix, et c'est plutôt une très bonne nouvelle pour les grands crus et les grands vins. Voilà, donc c'est le moment d'aller à Singapour pour tous les producteurs français.
Tout le monde est,
oui. Voilà, donc si je reviens sur le marché allemand, aujourd'hui c'est le deuxième marché mondial d'importation de vin. Ça représente 20 millions d'hectolitres par an. C'est une moyenne de 24,4 litres par habitant. C'est relativement stable.
Ça, c'est la consommation des Allemands, vous dites, hein?
C'est la consommation annuelle par habitant.
Et nous, David, nous sommes à combien en France?
Pardon?
Vous suivez l'émission, là. Nous consommons combien de litres de vin par an et par français?
Je suis désolé, je vais essayer avec Philippe de compter le nombre de cavistes en France.
Ah, d'accord.
Ça prend un certain temps. On est arrivé à 6500 à peu près. Oui.
Donc, au fait, c'est 50 litres. Alors, continuons, Vladimir. Oui.
Alors, par contre, la distribution est quand même en pleine évolution en Allemagne. Il faut s'adapter à des consommateurs plus jeunes. Ce qu'on peut noter, c'est que le vin en Allemagne est cool. Le vin en France est assez traditionnel. Le vin en Allemagne est assez cool. On retrouve des étiquettes beaucoup plus modernes.
Fun.
On retrouve Arrogant Frog comme en Australie.
Voilà, donc je vais les
prendre.
Merci beaucoup.
Qui est un vin français, il faut.
Un vin français. Oui, oui, oui. Merci Vladimir Kaufmann, le patron d'RVI, de marquer une dernière pause. Et puis ensuite, retour chez Nicolas, ici à Paris, pour parler du champagne, des étiquettes en tout cas, et également du Calvados.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour chez Nicolas Paris pour cette émission en public et délocalisée avec le Vino Quiz et le célèbre Vladimir Kaufmann himself, lui.
Donc chaque semaine, nous vous proposons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club. Donc la semaine dernière, la question était: quel est l'âge moyen des vignes du domaine Hain? Réponse A, 23 ans. Réponse B, 24 ans. Réponse C, 25 ans.
Et la bonne réponse est
25 ans.
Et cette semaine alors?
Alors cette semaine, bon, pour la nouvelle question, combien de domaines possède la maison Albert Bichot? On en a parlé tout à l'heure. Donc, réponse A, 2 domaines. Réponse B, 4 domaines. Ou réponse C, 6 domaines. Pour répondre et gagner un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club, vous pouvez envoyer dès maintenant votre réponse à l'adresse mail invino@invinojeu.com. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup, Vladimir. David Kobold, vous qui êtes le cofondateur de l'Académie du vin de Paris. Est-ce que c'est facile de déchiffrer, de lire, de comprendre une étiquette de champagne?
Alors, sur certains points, c'est très, très facile. C'est la seule appellation qui n'a pas besoin des mots appellation contrôlée. C'est simplement champagne. Donc déjà, on sait d'où ça vient. Et en gros, si on a déjà goûté un vin à bulle d'origine de l'Est de la France, on sait avec quoi c'est fait, d'où ça vient. Donc c'est une région, c'est une appellation, et c'est également une technique avec une deuxième fermentation en bouteille. Donc jusqu'à là, tout va bien. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, ou ce que je vais essayer d'expliciter, c'est le statut des producteurs, puisque à la base, vous avez une situation qui, a priori, est très complexe à gérer, et d'ailleurs, ça a été très bien géré par les Champenois eux-mêmes. 70% du business de champagne, je prends comme base les chiffres d'affaires de 2014, les plus récents disponibles, 70% du business de champagne est fait par les négociants, c'est-à-dire les gens qui sont propriétaires peut-être d'un peu de vignes ou de beaucoup de vignes, mais en tout cas qui ne sont pas autosuffisants sur le plan de la production. Et ces négociants, ces maisons qui ont toutes les grandes marques que nous connaissons, avec des étiquettes jaunes ou blancs ou noires ou peu importe, font historiquement le business du champagne à la hauteur de 70%. 20% est fait par des vignerons et 10% à la louche par des caves coopératives qui sont des regroupements de vignerons mais qui ne vinifient pas, qui apportent les raisins à une cave coopérative. Exemple, Nicolas Feuillette est une marque coopérative. Néanmoins, les négociants qui font le gros du business ne sont propriétaires que d'environ 12% du vignoble. Autrement dit que la matière première, c'est le kilo de raisin qui est vendu, ou bien le moût de raisin, parce qu'on peut acheter au pressoir un volume de moût, qui est vendu des vignerons ou des caves coopératives aux négociants qui vont ensuite faire le gros de la vente. Et pour savoir quel est le statut d'un producteur, il faut que c'est comme dans un contrat d'un assureur ou n'importe quel contrat, il faut le dire, des toutes petites imprimeurs en bas de l'étiquette ou parfois sur le côté, avec deux lettres qui précèdent un numéro qui est un numéro de registre, hein, il faut que chaque marque soit enregistrée, et devant vous avez NM, si vous avez NM c'est un négociant manipulant, donc c'est un négociant. Si vous avez CM, c'est un coopérant manipulant, c'est-à-dire que les vins sont vinifiés par un cave coopératif. Si vous avez RM, c'est un récoltant manipulant. Il y en a un peu plus de 2000, hein, alors que pour les négociants, il y en a plus ou moins 300. Et puis, vous pouvez aussi trouver une sous-catégorie des coopérants, RC, récoltant coopérant. Là, c'est quelqu'un qui apporte ses raisins à un cave coopératif et qui récupère des bouteilles. Donc, ce n'est pas lui qui a fait le vin. Il a apporté des raisins. Ils ont été mis dans une cuve avec beaucoup d'autres raisins. Vous ne savez pas si c'est lui qui l'a fait. Donc, c'est un peu ambigu, ce statut-là. Puis, vous avez quelques autres sous-catégories, notamment dans les supermarchés. Vous allez trouver des MA. Ça, c'est des marques auxiliaires ou des marques d'acheteurs. Par exemple, toutes les enseignes, que ce soit Carrefour.
Est-ce que c'est forcément pas bon quand on dit MA ?
C'est, disons que c'est fait pour un prix, pour un cahier de charges où le prix prédomine sur la qualité. Et en général, c'est pas nécessairement toujours des vins de haute qualité, mais il faut se garder de préjuger de la qualité du vin par le statut. Faut pas penser que parce que c'est une cave coopérative que ça va être mauvais, ou parce que c'est un récoltant manipulant que ça va être bon, ou vice versa, ou lycée de Versailles. C'est pas possible. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la part des marchés des récoltants manipulants. Donc, on en parle beaucoup en France, et c'est vrai qu'en France, ils vendent pas mal, historiquement en direct, et de plus en plus aussi à des restaurateurs. Mais globalement, sur l'ensemble du marché à l'export, l'export, c'est maintenant 45% du business de champagne, ils sont présents qu'à la hauteur de 10%. Donc, le potentiel de développement pour les récoltants manipulants s'effectuera clairement à l'export.
Sachant que le champagne est exporté, David, à peu près à 50%, c'est ça?
C'est 45% à l'export et plus de la moitié en chiffre d'affaires, en valeur. Hein, parce que si on raisonne en volume en valeur, c'est jamais la même chose vu le prix de la champagne. Alors, moi, je vais investiguer d'ici 15 jours. Je vais revenir vous parler de quelques expériences que j'ai menées récemment en Champagne chez des récoltants manipulants. Il se passe des choses très, très intéressantes. C'est souvent des structures de petite taille où le gars en charge ou la femme en charge doit tout faire, c'est-à-dire gérer le vignoble, gérer le commerce, gérer le chai.
Gérer son mari, enfin, tout gérer.
Voilà, tout gérer, ce qui leur pose des problèmes. Mais il y a beaucoup de créativité dans ce secteur.
Merci beaucoup, David Cabol. Du BFM, on retrouve maintenant Antoine Cohen-Potin, le président de ce cercle. Gaston Phébus, direction la Normandie et le Calvados aujourd'hui, Antoine.
Oui, alors aujourd'hui, on va partir dans une magnifique région qui est à moins de 2 heures de Paris. Alors, je vous conseille de débuter votre découverte du Calvados à partir de Cabourg, à l'épicerie fine Le Fils du Pauvre, qui se trouve au 31 Vue de la Mer, où vous rencontrerez Geoffroy Dupuis.
Geoffroy Dupuis.
Alors, Geoffroy Dupuis est intarissable sur ce spiritueux et il en propose une très large sélection. Alors, rendez-vous ensuite chez Guillou, sur le trottoir d'en face, aux 4 avenues de la mer.
Vous avez fait toute l'avenue, Antoine.
J'ai fait toute l'avenue. Alors là, vous pourrez déguster dans ce bar, qui est un haut lieu de la vie sociale, un Valet d'Auge, qui est un grand classique, qui est un cocktail à base de crème fraîche, de liqueur, de nougatine et de calvados.
Ensuite,
c'est du super light. Ça. C'est du super light. Et vous constaterez.
C'est samedi matin, ça, c'est
voilà.
Ça.
Et vous constaterez maintenant que le calvados ne se boit plus seulement en trou normand pour faire fondre les graisses, je dirais, entre deux plats, comme autant de Maupassant dans les contes de la Bécasse. Il peut désormais se boire parfaitement et se mixer sur glace comme un cognac Hennessy ou comme un grand whisky. Alors, si vous avez quitté la Vue de la Mer, vous pouvez aller vers le Grand Hôtel, plus exactement vers le bar du Grand Hôtel dans les jardins du Casino, où séjourna plusieurs années Marcel Proust, pour écrire La Recherche du Temps Perdu. Alors c'est un bar qui propose une très belle sélection de crus. Et si vous voulez quitter Cabourg, cap cette fois-ci sur Dezulé, qui se trouve à une dizaine de kilomètres, où vous pourrez aller dans un restaurant qui s'appelle le Pavé d'Auge à Beuvron-en-Auge.
David Cabol, vous connaissez Beuvron-en-Auge, hein?
Oui, intimement. Est-ce qu'on peut boire le Cavaldos avec la Madeleine?
Oui, de Proust uniquement à Cabourg, dans le Grand Hôtel, face à la mer, bien sûr.
Mais de Commercy, je crois, la Madeleine était à l'origine de Commercy.
Alors, elle a voyagé, la Madeleine.
La voyage, donc,
mais celle de Proust, elle est unique. Alors, le chef Jérôme Bansard, qui se trouve, lui, à Beuvron-en-Auge, y officie dans une magnifique halle qui est située sur la place de ce village, qui est très romantique, où il y a beaucoup de géraniums. On aurait pu croiser...
Parce que géranium, c'est romantique.
On aurait pu croiser, je dirais, Bouvard et Pécuchet, s'il était venu se promener dans ce coin. Alors, il y a une très belle sélection de Calvados.
Et le lieu est assez magique, j'ai eu l'occasion d'y aller.
Ah, c'est superbe.
Il y a plein de magasins d'antiquités tout autour et il y a des producteurs de Calvados qui vendent même la place du marché.
Il y a du géranium et tout. Et alors, comment est-ce qu'on fabrique, Antoine, le Calvados
alors, le Calvados AOC, lui, d'abord, est produit exclusivement en Normandie, comme les produits qu'on parlait tout à l'heure d'Alsace. Mm-hmm. Et il est produit à base d'eau de vie de cidre qui est distillée à 70 degrés dans un alambic simple. L'eau de vie, ensuite, elle va vieillir 2 ans minimum en fût de chêne pour arriver à une teneur d'environ 40-42 degrés. Cette eau de vie de cidre est constituée à base de mou, donc de mou de fermenté de pommes à cidre, sachant qu'il y a à peu près 300 variétés de pommes à cidre. Alors certaines sont douces, d'autres sont amères, mais ce ne sont pas des pommes à couteau. Alors, et le cidre, comme vous le savez, à la différence du Calvados AOC, est produit lui partout en France. Et l'origine du cidre est ancienne, puisqu'elle remonte, vous savez jusqu'à quand elle remonte?
Si, c'était Don Cidrus, Don Pérignon.
Non, voilà. du Pays Basque, non?
Voilà, exactement, il est incollable. Elle remonte, en fait, au Moyen-Âge. Voilà.
Quand il écoute l'émission, il est parfait, David.
Alors, vous savez qu'au sein du Calvados, on a, je dirais, l'appellation d'abord du Pays d'Auge, et le Calvados Don Fronté, qui lui est situé au sud-ouest de la Normandie, où l'on planta des pommiers au milieu des pâturages pour augmenter le rendement des prairies. Alors, comme le cognac, le Calvados du Pays d'Auge, lui, est distillé 2 fois dans des alambics charentais à repasse. Et le Calvados du Don Fronté...
C'est parce qu'il loupe la première distillation.
Bah ouais, mais la deuxième est toujours meilleure. Et le Calvados du Don Fronté, lui, est un produit à base de cidre qui comporte au moins 30% de poire. Étonnant, hein ? C'est ce qui lui donne ce goût. Alors, Le cidre est poiré. Alors, donc, on le distille dans un alambic à colonne, comme ceux qu'on utilise cette fois dans l'Armagnac. Alors, ces deux Calvados coûtent environ 30 à 40 euros la bouteille.
D'accord. Vous avez quelques maisons à nous conseiller, quelques producteurs?
Oui, alors, je dirais qu'il y a des centaines de producteurs dans le Calvados, très difficile. Il y a une cinquantaine de grandes maisons et il y a plusieurs catégories de Calvados qui varient selon leur âge. Alors, tout est affaire de goût, de terroir et de savoir-faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Calvados AOC fermier, dont les pommes proviennent intégralement du domaine du producteur, lui, doit vieillir au minimum 2 ans en fût de chêne et coûte environ 25-30 euros la bouteille. Alors, il y a un autre Calvados qu'on peut acheter, qui est le Calvados vieux, du Pays d'Auge toujours, qui, lui, doit vieillir 4 ans minimum en fût. Enfin, vous avez le hors d'âge, qui vieillit au moins 8 ans.
Trois catégories, comme. Et des maisons à nous conseiller, peut-être, Est-ce qu'on peut visiter? Tiens, est-ce qu'ils sont sympas? On peut aller chez eux? Coucou, bonjour, Calvados Dubreuil. Ils sourient avec une bonne tête de Normand.
Ils sont très aimables, mais il vaut mieux les prévenir avant parce que ils tombent dans les pommes.
Ils sont très accueillants, les Normands.
Ils sont très accueillants, très gentils. Il faut les appeler simplement et on aura peut-être la liste sur le site. Alors, Geoffroy Dupuy, lui, nous propose de nous initier avec plutôt des Calvados hors d'âge, encore fruités, arrondis, qui sont souvent des assemblages d'eau de vie de plusieurs années, bien que ce ne soit pas obligatoire. Alors, leur élaboration, comme le cognac ou d'autres alcools, est faite par un véritable maître de chai. Alors, notre spécialiste nous conseille celui de M. Grandval, à Cambremer, dans le Pays d'Auge, qui est un Calvados fruité, pas agressif, qui est élaboré en petite production. Il y en a un autre, en Don Fronté à Montilly, dans l'Orne, c'est celui de M. Pacory. C'est aussi une petite production familiale, qui est réalisée avec un petit peu de poire, qui est très fruitée, avec un nez magnifique. Faut compter environ 39 euros. Autre producteur, très connu, la maison Groultz, qui se trouve à Saint-Cyr-du-Ronceret, c'est près d'Orbec, qui est spécialisée dans les vieux assemblages. Alors, ce sont parmi les plus vieux Calvados du Pays d'Auge, et c'est la 5e génération de producteurs qui tient la maison. Alors, chez Groultz, je vous conseille le Vénérable, qui est un assemblage d'eau de vie de 20-25 ans, environ 69 euros.
Et un dernier coup de cœur, peut-être, Antoine?
Alors, dernier coup de cœur, moi, je dirais, c'est celui à Victor Pontfol. Je vous conseille de déguster les Calvados d'Étienne Dupont, mais aussi ses cidres que la famille produit depuis 1887 en s'inspirant des techniques utilisées pour le cognac et pour les grands crus. Et enfin, la maison Camus.
Merci beaucoup Antoine Cohen-Potin, le président de ce cercle Gaston Phébus, fin de ce numéro 578 d'Invino BFM. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de BFM Business. On se retrouve en public et délocalisé chez Nicolas à Paris, samedi à 13h et dimanche à 16h. D'ici là, bonne suite au week-end sur BFM Business et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.